VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 19 avril 2017 en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, libération des membres de la MONUSCO retenus en otage par d'ex-rebelles sud-soudanais.
Au Niger, Michael Zodi, coordonnateur de la campagne Tournons la page Niger, a été relaxé après 2 semaines de détention.
Au Mali, 5 soldats ont été tués hier dans une attaque djihadiste dans la région de Tombouctou.
En Égypte, un policier tué et 4 autres blessés hier lors d'une attaque de djihadistes contre les forces de l'ordre près du monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï.
Corée du Nord, le président Trump, comme ses prédécesseurs, compte sur Pékin pour faire plier Pyongyang.
Et ne manquez pas le reportage de notre envoyé spécial au Niger, Nicolas Pinault, notre page sport, ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, 16 membres de la MONUSCO ont été libérés hier après avoir été pris en otage dans la journée par d'ex-rebelles sud-soudanais dans un camp de réfugiés du pays. C'est ce qu'a affirmé un responsable onusien ayant requis l'anonymat. Une enquête a été ouverte sur cet incident qui n'a pas fait de victimes. Quelques 530 anciens rebelles du Soudan du Sud qui ont fui les combats dans la capitale de leur pays, Djouba, vivent dans ce camp.
Michael Zodi, coordonnateur de la campagne Tournons la page Niger, poursuivi pour concussion, a été relaxé après 2 semaines de détention. La justice a estimé les faits non constitués. Solange Niamoulissa a joint Issa Garba, secrétaire à l'information de la campagne Tournons la page internationale Niger.
Effectivement, nous vous confirmons que Michael Zodi est relâché depuis ce matin par le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui a délibéré en disant que vraiment les faits qui sont retenus contre Michael Zodi ne sont pas constitués. Donc par conséquent, il est relâché et libre de ses mouvements et il peut continuer ses activités sans se soucier encore de la même poursuite qui a été engagée contre lui sa professionnelle.
Au Mali, 5 soldats gouvernementaux ont été tués hier et 10 d'autres blessés dans une attaque djihadiste dans la région septentrionale de Tombouctou, selon Bamako. Et la France a annoncé que sa force Barkhane avait neutralisé 10 de terroristes. L'attaque a visé un détachement des forces armées maliennes basé à Gourma Rarous, une localité d'accès difficile située à quelques 120 km à l'est de Tombouctou, selon un communiqué du gouvernement malien.
En Guinée équatoriale, 2 militants des droits de l'homme ont été arrêtés lundi et amenés au commissariat central de Malabo, surnommé localement Guantanamo. Le point avec Tatiana Mosso.
Alfredo Okembe et Enrique Assoumou du Centre d'éducation et d'initiative pour le développement de la Guinée équatoriale sont détenus sur ordre du ministre de la Sécurité au commissariat central de Malabo. Le vice-président de l'ONG Mariano Ngokomba rappelle que la durée légale de la garde à vue est de 72 heures. L'ONG se dit aussi inquiète de la possible arrestation d'autres membres et demande la libération immédiate des 2 défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement leur reproche d'avoir célébré les 20 ans de l'association les 14 et 15 avril à Malabo, alors que les activités de l'ONG ont été suspendues en mars 2016. La Guinée équatoriale est dirigée depuis 1979 d'une main de fer par Théodoro Obiang Nguema. Il a été réélu avec près de 94% des suffrages à la présidentielle du 24 avril 2016.
En Zambie, le chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, incarcéré pour avoir tenté de bloquer le convoi présidentiel, a dénoncé hier à sa première comparution le comportement criminel de la police lors de son arrestation. Des détails avec Anastasie Tudiech.
Le dirigeant du Parti Uni pour le Développement National répondait devant un tribunal de Lusaka des accusations d'insultes et refus d'obtempérer à une injonction de la police. Avec ma famille, nous avons été attaqués par des criminels en tenue de policiers qui nous ont gazés pendant 15 heures, a dénoncé M. Hichilema à la barre. Il est également poursuivi pour trahison. L'audience doit se poursuivre mercredi. Les autorités lui reprochent d'avoir gêné au début du mois le passage du convoi du président Edgar Lungu dans l'ouest du pays. HH, comme on le surnomme, a été interpellé le 11 avril au petit matin dans sa résidence par les forces de l'ordre au terme d'une nuit de siège. Au terme de la première comparution, le juge Greenwell Malumani l'a autorisé à voir le médecin de son choix dans sa cellule et à recevoir la visite de ses proches et celle de ses avocats.
En Égypte, des hommes armés ont attaqué les forces de l'ordre mardi près du monastère Sainte-Catherine dans le Sinaï, tuant au moins un policier et en blessant 4 autres, a annoncé le ministère égyptien de la Santé. Cette attaque a eu lieu une semaine après les explosions qui ont tué 45 personnes dans 2 églises coptes. L'organisation État islamique a revendiqué l'attentat sur un poste de contrôle à 800 mètres de l'entrée du monastère, l'un des plus anciens du monde, par le biais de son organe de propagande Amak.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Corée du Nord, l'administration Trump a exprimé ces derniers jours une approche plus dure envers Pyongyang, avertissant qu'elle avait perdu patience avec son intransigeance face aux appels pour freiner ses ambitions nucléaires. Hier à Tokyo, au Japon, le vice-président Mike Pence a déclaré « Nous ne renoncerons pas tant que nous n'aurons pas atteint l'objectif d'une péninsule dénucléarisée ». Auparavant, à Séoul, il avait déclaré révolu l'ère de la patience stratégique, une critique indirecte à l'approche de l'ex-président Barack Obama. La tournée asiatique du numéro 2 américain intervient au moment où le conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale, le général H.R. McMaster, a dit à ABC News que toutes les options étaient sur la table, tout en exprimant l'espoir qu'une frappe contre la Corée du Nord ne serait pas nécessaire. Malgré ses discours musclés et les tweets de M. Trump lui-même, les observateurs trouvent que la politique du président Trump n'est pas si différente que ça de la patience stratégique du président Obama, compte tenu des options plutôt limitées contre Pyongyang.
En Turquie, le premier ministre Binali Yildirim a riposté aux critiques des observateurs européens par le référendum « C'est terminé, la volonté du peuple s'est librement exprimée dans les urnes ». Ces derniers soulignent que plus de 2 millions de votes pourraient avoir été manipulés lors du référendum très serré de dimanche sur le renforcement des pouvoirs du président Erdogan. La mission du Conseil de l'Europe a demandé une enquête sur les allégations d'irrégularités selon lesquelles quelques 2,5 millions de bulletins non certifiés ont été comptés.
En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May a appelé hier à la tenue d'élections législatives anticipées le 8 juin. L'objectif, se doter d'une majorité parlementaire forte et stable durant la période de négociation du Brexit. À Bruxelles, on estime que le calendrier des discussions avec Londres ne sera nullement affecté par ce scrutin inattendu qui vient s'ajouter à la liste déjà chargée des rendez-vous électoraux majeurs cette année en Europe.
Donald Trump a signé hier un décret censé inciter les entreprises à acheter américains et à embaucher américains, en changeant notamment un programme de visa temporaire utilisé pour recruter des travailleurs étrangers hautement qualifiés. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Ce décret, signé à l'occasion d'une visite au siège de Snap-on, un fabricant d'outils du Wisconsin, matérialise le mot d'ordre « America First », l'Amérique d'abord, sous lequel M. Trump a placé sa présidence dès son discours d'investiture le 20 janvier dernier. Ce nouvel executive order réclame aussi que le département d'État du travail, de la justice et de la sécurité intérieure renforce les mesures contre la fraude et les abus dans le système migratoire pour protéger les employés américains. Les 4 départements devront proposer des réformes du programme de visa H1B afin de garantir que ces laissez-passer ne soient octroyés qu'aux plus qualifiés et aux mieux payés des travailleurs étrangers. Les visas H1B sont destinés aux étrangers dans des métiers spécialisés requérant des diplômes de l'enseignement supérieur. Ils concernent notamment des scientifiques, des ingénieurs et des programmeurs informatiques. Mais certains estiment que les entreprises utilisent ces documents de séjour pour employer des travailleurs étrangers à des postes technologiques sur le baptême pour des salaires moindres.
États-Unis toujours, un homme a ouvert le feu hier à Fresno, en Californie, tuant 3 personnes et en blessant une 4e avant de se rendre à la police, ont indiqué les autorités. Le suspect, qui était déjà recherché pour meurtre, aurait également écrit sur Facebook et dit au moment de son arrestation qu'il détestait les Blancs et le gouvernement. Par ailleurs, le tueur qui a choqué l'Amérique en diffusant l'assassinat d'un grand-père sur Facebook s'est suicidé hier après 3 jours de traque qui ont contraint le réseau social à revoir sa politique face à ce type de contenu. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
La production de la banane a chuté au Cameroun, entraînant une baisse de 30 000 tonnes des exportations. Cette chute relègue le Cameroun au deuxième rang africain des producteurs de bananes, après une éphémère première place ravie à la Côte d'Ivoire en 2015. Avec plus de 5%, la banane est le troisième produit d'exportation du Cameroun, derrière le pétrole pour 40%, et le bois, engrumes ou sciés, pour 15%. L'aéroport de la capitale du Nigeria, Abuja, a rouvert hier après 6 semaines de fermeture pour réhabiliter la piste d'atterrissage. La piste d'Abuja est achevée à 100% et certifiée par l'administration, s'est félicité sur son compte Twitter le secrétaire d'État à l'aviation, Adi Sirika, postant des photos de la piste avant la fermeture, remplie de nids de poules, et après rénovation, recouverte de peinture fraîche. La fermeture de l'unique aéroport d'Abuja avait provoqué beaucoup d'inquiétudes au Nigeria. La plupart des compagnies internationales avaient même refusé de se poser à Kaduna, mettant en avant les problèmes de sécurité. L'agence de notation américaine Moody's vient de relever la note du Sénégal de BA3 à B1, en raison de la croissance élevée du pays tirée vers le haut par les investissements publics, mais aussi les efforts du gouvernement sénégalais pour consolider sa fiscalité. Pour l'agence américaine, le Sénégal a désormais un taux de croissance de 6% depuis 2014, croissance qui a doublé depuis la période 2011-2013.
À présent, les sports avec Tatiana Mosso. Ligue des champions, CE, Barcelone-Juventus, une autre remontada ou le précipice.
Barcelone au bord du gouffre, balayé 3-0 par la Juventus Turin, le Barça est condamné à une nouvelle remontada ce mercredi en quart retour de Ligue des Champions, avant un vertigineux classico au sommet de la Liga dimanche face au Real Madrid. Côté Juve, personne ne juge la qualification déjà acquise. Dani Alves, ex-joueur de Barcelone aujourd'hui à Turin, a donné à son ancienne équipe 40% de chances de passer ce mercredi. Le Barça a déjà battu la Juve en match couperé en remportant la finale de C1 en 2015, 3-1. Quoi qu'il en soit, l'issue de ce choc européen aura des conséquences directes sur la fin de saison barcelonaise.
Tennis tournoi de Monaco, Djokovic joue en double aussi pour la Coupe Davis.
Si le Serbe Novak Djokovic dispute aussi le tournoi de double à Monte Carlo, c'est une manière de préparer la demi-finale de Coupe Davis qui aura lieu en France du 15 au 17 septembre sur terre battue. Djokovic, qui fait équipe avec son compatriote Viktor Troicki, doit affronter mercredi la paire composée du Finlandais Henri Kontinen et de l'Australien John Pearce pour une place en quart de finale. En simple, il ne disputera les huitièmes de finale contre l'Espagnol Pablo Carreño ou le Russe Karen Khachanov que jeudi. Novak Djokovic s'est fait peur contre le Français Gilles Simon qui a servi pour le match avant de se reprendre et d'éviter une nouvelle défaite d'entrée lors du Masters 1000 de Monte Carlo, sans toutefois convaincre.
Dopage, l'ex-médecin de Mofara auditionné mercredi par des parlementaires britannique.
Le docteur qui aurait administré à l'athlète britannique Mo Farah un complément alimentaire controversé va être auditionné aujourd'hui par la commission culture, médias et sport de la Chambre des communes qui s'intéresse au dopage dans le sport. L'ancien médecin de la Fédération d'athlétisme britannique aurait administré au quadruple champion olympique du 5000, 10000 en 2012 et en 2016 une préparation en intraveineuse de L-carnitine, un brûleur de graisse selon un rapport de l'agence américaine antidopage. Ce brûleur de graisse est interdit au-delà d'un certain seuil de consommation. Il aurait été administré à Farah avant l'édition 2014 du Marathon de Londres pour son passage sur route.
Et pour terminer, les playoffs de la NBA, la Ligue professionnelle de basketball américain, conférence Est, les Bulls de Chicago mènent désormais 2-0 face aux Celtics de Boston au premier tour des playoffs NBA après leur victoire 111-97 dans la nuit de mardi à mercredi. En revanche, Milwaukee et Toronto sont maintenant à égalité, une victoire partout, après celle de Toronto 106-100. Conférence Ouest, les Los Angeles Clippers ont de leur côté égalisé un partout, en battant hier soir Utah Jazz 99-91.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédounia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Niger est dans une situation moins précaire que son voisin nigérian qui connaît un épisode de famine dans l'extrême nord du pays. Cependant, les cas de malnutrition existent et devraient augmenter avec la période de soudure, notamment dans la région de Diffa. C'est là que s'est rendu Nicolas Pineau, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Niger.
De part et d'autre du goudron brûlant de la route nationale 1, le camp d'Assaga se situe à quelques kilomètres à l'est de Diffa. C'est là que vivent des réfugiés nigérians ou des déplacés nigériens de Boko Haram. Pas besoin de chercher bien loin, au milieu des cases balayées par le sable pour trouver des cas de malnutrition. Mamadou a 1 an. Affaibli, l'enfant a le regard vide et sa mère, Chatouchiwa, elle aussi a faim. Elle produit peu de lait pour le nourrir.
Depuis sa naissance, nous allons au centre de santé. À ses 6 mois, on a commencé à lui donner de la pâte d'arachide. Il est très fatigué et pleure souvent pour manger. Mais comme je n'ai pas de lait, c'est dur.
Selon l'UNICEF, près de 12 000 enfants de moins de 5 ans devraient souffrir de malnutrition cette année dans la région de Diffa et beaucoup passeront par le centre de renforcement nutritionnel intensif. Le docteur Mustapha Saleh dirige le CRENI et visite ses petits patients dont certains n'ont que la peau sur les os. Ce garçon de 2 ans ne pèse que 5,6 kilos.
On voit un enfant qui est amaigri, un amaigrissement sévère, donc qui est visible. Dès qu'on le voit, c'est un enfant, on voit les os qui sont là, donc les os du crâne, on voit effectivement, c'est un enfant où il a perdu ses muscles, donc c'est un enfant qui est émacié, donc c'est ça qu'on voit. Mais l'objectif ici, c'est d'abord le stabiliser, puis après, il va prendre du poids.
Malgré ces cas alarmants, pas de famine à Diffa ou au Niger, plutôt une situation récurrente de stress alimentaire dans ce pays du Sahel. L'UNICEF estime que 247 000 enfants de moins de 5 ans souffriront de malnutrition sévère cette année au Niger. Et pour le Programme alimentaire mondial, 1,5 million de personnes souffrent d'insécurité alimentaire au Niger. Pierre Camara est le représentant de la sous-délégation du HCR à Diffa.
La situation alimentaire, je crois que n'est certes pas bonne, mais elle n'est pas aussi différente des autres régions du Niger. Parce que de manière globale, au Niger, la situation alimentaire reste critique, surtout dans une période comme ça de soudure.
Retour au camp d'Assaga, où les réfugiés affirment ne pas avoir reçu d'aide alimentaire depuis 4 mois. Ils tourneront, eux qui ne peuvent rentrer chez eux à cause de la menace Boko Haram. Falouma Taboukar est une femme d'Assaga. Elle sert de relais communautaire dans le centre de santé.
Dans les camps, la situation est difficile. On n'a pas assez à manger. Les enfants ont faim ou ont la diarrhée. On les amène au centre pour les soigner et on leur prescrit des aliments riches. Mais les parents ne peuvent pas payer. La vie au village, c'était mieux.
La période de soudure qui s'annonce devrait correspondre à une augmentation du nombre de cas de malnutrition. Une saisonnalité à laquelle les médecins de Diffa sont habitués depuis plusieurs années d'insurrection de Boko Haram. Nicolas Pineau, Diffa, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a été destitué pour mauvaise gestion suite à une crise politique et administrative entre Jean-Claude Kazembe et son équipe gouvernementale. Sa destitution, pendant qu'il était à Kinshasa, a été décidée par le vote unanime d'une motion de censure à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. De Lubumbashi, Narvab Mabila.
Nous sommes devant les sièges de l'Assemblée provinciale où deux groupes de manifestants sont présents. Les uns soutiennent la motion de censure initiée par 21 députés contre le gouvernement de Jean-Claude Kazembe et d'autres s'y opposent. En voici leur réaction à notre micro.
Pour raison, nous venons pour soutenir la motion de défiance. Nous soutenons pour que les députés provinciaux puissent voter cette motion-là afin que ce monsieur-là parte. Le gouverneur Kazembe, qu'il parte. Nous le détestons. Il a pris des mesures qui sont discriminatoires.
C'est tribaliste.
Pour vraiment soutenir le gouverneur, on ne comprend pas ce qui se passe. Il y a toujours des mains noires qui veulent pas que notre province
jeunesse avance. C'est comme ça qu'on est là pour dire même à nos honorables députés, comme ils représentent nous, population, leur dire que non, quand même, le gouvernement fait bien. S'il y a une motion de défiance, oui, c'est bien beau, mais quand même, nous, peuple, nous nous retrouvons, nous nous sentons bien, nous sommes à l'aise dans notre province. Et bien donc, nous ne sommes pas pour. Alors, nous venons exprimer nos voix par notre présence.
Les 24 députés provinciaux présents sur 30 ont débattu la bonne raison de la motion de censure du gouvernement provincial après rapport d'une commission d'enquête dont les grandes lignes de la crise sans précédent qui déchire la province du Haut-Katanga sont retracées ici par le rapporteur du bureau de l'Assemblée, l'honorable Arske Yumba.
Au sein de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, caractérisé par le manque de collaboration entre, d'une part, le gouverneur et son vice-gouverneur, et d'autre part, entre le gouverneur et certains de ses ministres. Par la centralisation de la gestion en s'accaparant de toutes les attributions, par le non-respect des normes de passation de marché public, par la non-disponibilisation des frais de fonctionnement conséquents accordés aux différents ministres, par la non-exécution des budgets votés, par l'insoumission de certains ministres envers le gouverneur des provinces, par le manque de communication entre les gouverneurs et certains de ses ministres provinciaux. Considérant que cette situation perdure même à son retour de Kinshasa.
Après cette présentation des faits suivie d'un débat, les vins étaient déjà tirés et le sort du gouverneur Jean-Claude Kazembe était déjà scellé, s'en est suivi les votes des députés qui ont voté à la majorité absolue la défiance du gouvernement.
Après déroulement des bulletins de vote, les résultats suivants sont enregistrés. Sur 24 votants, 24 votes pour, 0 vote contre et 0 abstention. Honorables députés et chers collègues, au regard de ce résultat, il y a lieu de comprendre que l'Assemblée plénière souveraine vient de voter à la majorité absolue la motion de censure contre le gouvernement de la province du Haut-Katanga.
C'est ainsi que s'achève le règne sans partage du gouverneur Jean-Claude Kazembe à la grande satisfaction des plus d'un louchois.
Le président de l'Assemblée provinciale a bisou d'avoir chassé un criminel dans notre province.
Ils l'ont élu, ils l'ont déchu, Lubumbashi Narval Nabila, VO Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les Nations Unies dénoncent une campagne de terreur au Burundi. D'après le commissariat aux droits de l'homme, des partisans du président Pierre Nkurunziza appellent régulièrement à la haine et à la violence à l'égard des opposants au régime. Des slogans chantés par les Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir, appellent même au viol. Morgan Guirec a joint Scott Campbell, le chef de la section Afrique 2 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il s'occupe de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Les membres de la milice du parti du président doivent rendre les opposants enceintes pour qu'elles donnent naissance à des Imbonerakure. Les Imbonerakure étant la milice qui appartient au parti du président et qui sont en même temps la branche de la jeunesse du parti de pouvoir. Ce message de haine, d'incitation à la violence, qui se trouve dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux récemment, mais aussi qui était chantée pendant plusieurs manifestations Imbonerakure, dans la présence des hauts responsables du parti du président, des membres du gouvernement.
Et ces appels au viol et aux violences sont-ils reliés par les officiels eux-mêmes?
Les officiels sont plutôt présents lors de ces rassemblements. Nous nous félicitons le fait qu'il y a eu une condamnation par le gouvernement d'une des manifestations pendant lesquelles il y a eu ces appels à la haine et à la violence. Mais d'une manière générale, il n'y a pas eu, malgré la présence des officiels, des condamnations. Et dans le même sens, il n'y a pas eu des appels pour traduire en justice ceux qui sont à la racine de ces appels.
Et les autorités qui auraient appelé la population à maintenir elle-même la sécurité?
Il n'y a pas eu des appels si clairs que cela, mais pendant les manifestations, c'est plutôt un langage codé qui est utilisé pour effectivement terroriser les opposants avec des messages clairs, je pense, pour les Burundais qui comprennent très bien ce qui veut dire le langage utilisé. Ça reflète une campagne de terreur à travers le pays où tous ceux qui ne font pas partie des Imbonera Corée, tous ceux qui opposent le parti du président sont directement mis en danger.
Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement se sert des Imbonera Corée?
De facto, ils opèrent plutôt comme une milice qui collabore avec la police, avec les services d'intelligence, et ils commettent des violations des droits de l'homme en complicité avec ces autorités, ces services étatiques, y compris les disparitions forcées. Ils font des raids dans les maisons des personnes pour les terroriser, des arrestations arbitraires et la torture.
Scott Campbell, le chef de la section Afrique 2 du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Comment accroître le nombre de scientifiques en Afrique et, partant, permettre à de nombreux jeunes d'améliorer leurs connaissances dans le domaine des sciences? De nombreuses organisations tentent de répondre à ces préoccupations à travers des formations approprié. C'est le cas de l'Institut panafricain des sciences mathématiques Nextein, difficile à dire, c'est une combinaison entre Next ex Einstein, le génie Einstein. Alors cette initiative dont la vision est de transformer le continent africain, donnant la chance aux étudiants fort en thème. Pour en parler, John Lyndon a joint à Kigali Roméo Essou, directeur des bourses au Next Einstein Initiative.
L'Institut panafricain des sciences mathématiques, en abrégé EIMS en anglais, est une initiative qui a vu le jour en 2003 en Afrique du Sud pour mettre sur orbite le continent africain dans le développement des sciences, notamment en mettant en place des centres d'excellence où sont formés les plus brillants étudiants du continent en sciences mathématiques. Quand je dis sciences mathématiques, j'entends évidemment les mathématiques, mais aussi la biologie, les sciences physiques et les sciences statistiques, tout ce qui est du ressort des sciences et qui fait intervenir les mathématiques. Et puis, nous avons identifié que ce serait intéressant pour le continent de former une masse critique de jeunes scientifiques qui réfléchissent aux problèmes, aux défis majeurs du continent et qui apportent des solutions adaptées aux réalités de l'Afrique.
Comment est-ce que vous sélectionnez les étudiants ou les élèves qui doivent intégrer votre centre?
Les étudiants sont sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères rigoureux qui tiennent compte de leur excellence. Déjà, parce qu'il faut qu'ils aient le niveau licence minimum, donc des étudiants qui sont sortis majeurs de leur promotion. Et le deuxième critère, c'est que nous regardons parmi ces étudiants-là, ceux qui n'ont pas la possibilité de s'offrir des études d'un certain standing. Parce que ce que nous voulons, c'est de promouvoir les meilleurs cerveaux africains. Et par conséquent, nous faisons en sorte de donner l'opportunité à ceux qui sortent des milieux défavorisés pour accéder à ces initiatives. Et le troisième critère que nous mettons en place, c'est de nous assurer que les étudiants qui seront sélectionnés vont pouvoir donner en retour à l'Afrique et qu'ils auront reçu des centres d'excellence de EMS.
Aujourd'hui, beaucoup de parents font face à un défi, c'est celui soit de faire en sorte que leurs enfants fassent des études littéraires ou alors des études scientifiques. Qu'est-ce que vous conseilleriez à ces parents-là?
Ce que je recommanderais plus, c'est que les parents mettent l'accent sur l'orientation de leurs enfants dans les études scientifiques, notamment les filles, parce que le continent en a grandement besoin. Nous avons un nombre encore très infime de scientifiques à l'échelle du continent. Nous contribuons dans une proportion extrêmement réduite à l'échelle globale. Et donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique de scientifiques sur le continent qui réfléchissent aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Roméo Essou, directeur des bourses au Next Einstein Initiative.
Dans Washington Forum, ce jeudi, on décrypte la grogne des étudiants à travers le continent, du climat tendu au Niger avec la répression brutale de manifestations étudiantes, au Burundi, en passant par le Tchad. Que réclament les étudiants? Quelles sont leurs conditions matérielles et financières? Les protestations prennent un tournant politique. Que font les gouvernements? L'irruption des forces de sécurité dans les campus est-elle la solution? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 20h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.